RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 à RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Notre invitée aujourd'hui est Amélie de Montchalin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée et première vice-présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. On va parler de la loi anti-casseurs votée cet après-midi en première lecture à l'Assemblée nationale. 387 pour, 92 contre. Et ce texte divise votre majorité. 50 députés La République En Marche se sont tenu. Aucun ne vote contre, mais il y a clairement un malaise dans la majorité.
Je ne pense pas que ce soit un malaise. Il faut juste rappeler ce qu'est ce texte. Au départ, c'est un texte qui sort du Sénat, qui n'a donc été écrit ni par la majorité, ni par
la droite,
le gouvernement, qui propose, suite notamment aux événements du 1er mai, de rétablir au fond l'ordre dans les manifestations. Pas pour interdire les manifestations, mais pour s'assurer que ceux qui manifestent, et c'est un droit constitutionnel, ne soient pas confronté à une violence qui, en fait, empêche la manifestation de se tenir.
Mais est-ce que c'est pas le danger d'une loi de circonstance, dans le fond?
Moi, je peux vous rappeler.
Parce que la loi reste et les gouvernements changent.
Oui.
Vous n'êtes pas éternel.
Mais la loi, elle,
au gouvernement.
Vous.
Et si l'argument de certains, c'est de dire, dans le fond, si le gouvernement, un jour, un autre gouvernement que le vôtre, respecte de moins en moins les libertés, eh bien,
si on reprend un peu les faits. La loi El Khomri, François Hollande, des manifestations extrêmement violentes qui dégénèrent et des policiers blessés. Le 1er mai, on l'a vu, pareil, Black Bloc, beaucoup de violence. Voilà. Le 8 décembre à Paris, la même chose. Aujourd'hui, la violence qui se passe en marge des manifestations pose une question sur le droit de manifester pour les syndicats, pour les gens qui, de manière pacifique, voudraient exprimer leurs idées. Donc, sur ce texte, au départ, des députés du groupe n'étaient pas du tout enclins à voter même pour. On n'est même pas dans l'abstention, on est dans un vote contre, puisque la rédaction d'un certain nombre d'articles posait problème dans l'équilibre entre les libertés publiques, d'un côté, et le maintien de l'ordre et l'opérationnalité du maintien de l'ordre. Ça fait 15 jours, 3 semaines maintenant, que nous avons fait un travail parlementaire pour arriver à un consensus. Moi, je suis, en tant que première vice-présidente, garante d'une seule chose, qu'il y a un débat interne, qu'il y ait une négociation avec le gouvernement, qu'on avance et qu'on crée un vote majoritaire sur des textes. Aujourd'hui, il n'y a pas de vote contre. Il y a effectivement des députés qui ont des questions. Il y a eu un retour au Sénat.
Alors, on va revenir, Amélie de Montchalin, sur le fait qu'il n'y ait pas de vote contre. Mais tout de même, lors de la loi Asile-Immigration, il y avait 14 députés de votre groupe qui s'étaient abstenus. Là, il y en a 50, donc plus de 3 fois plus. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vos collègues là n'ont rien compris, finalement?
Je pense que d'abord, la loi Asile-Immigration était une loi présentée par le ministre, sur laquelle un certain nombre d'éléments avaient été préparés en amont avec les députés. Sur ce texte, il y a plusieurs choses qu'il faut avoir en tête. D'abord, l'origine du texte.
Vos collègues qui ont voté contre tout ça, normalement, ils le savent. Il y a par exemple le vice-président de l'Assemblée nationale, Luc Granson. Il y a Barbara Pompili, qui est présidente de commission. Enfin, c'est pas.
Aujourd'hui,
a priori,
point,
ce sont des gens qui sont informés quand même sur les textes sur lesquels ils votent, non?
Leur point, c'est l'article 2.
Oui. L'interdiction administrative de manifester.
C'est le fait que les préfets peuvent, dans l'article tel qu'il y a, donc il a été voté aujourd'hui à l'Assemblée, peuvent interdire de manifester des individus qui, dans des manifestations précédemment, ont commis des actes violents ou ont participé à la commission d'actes violents. Ce qui est, aujourd'hui, on le voit, la difficulté auxquelles les policiers et les forces de l'ordre sont confrontés, c'est que vous avez des gens qui, semaine après semaine, parce qu'ils n'ont pas encore été condamnés par la justice qui a son calendrier, son temps, reviennent, et pour avoir une condamnation formelle qui les interdise de manifester, qui peut être prononcée dans le droit, ça peut prendre plusieurs mois.
Alors, elle est 50.
Et vous voyez bien que le calendrier... Voilà. Aujourd'hui, ce que nous disent nos collègues, c'est on aimerait que dans la navette parlementaire, donc dans l'aller-retour avec le Sénat, nous puissions avoir des garanties sur la possibilité de bien saisir le juge pour que cette décision administrative soit ce qui était possible dans la rédaction. Je pense qu'il y a un travail de clarification. Peut-être qu'il faut qu'on reformule les choses. Vous savez, le travail parlementaire, c'est à la fois de la dentelle, mais c'est des objectifs politiques. Moi, je suis très attachée aux objectifs politiques.
Alors,
on ne lance pas d'armes par destination sur les forces de l'ordre. On ne revient pas de manière répétée participer à des exactions. On instaure le principe du casseur-payeur et vous ne pouvez pas venir dans une manifestation cagoulée. Ces 4 objectifs aujourd'hui sont votés et vous voyez bien qu'on est sur des points à la fois de détail et d'organisation de la procédure entre le préfet et le juge.
Justement, le juge disparaît dans cette affaire. C'est-à-dire, est-ce que vous ne pensez pas que
le juge ne disparaît pas?
Oui, il pourrait être saisi après, mais il est. Est-ce que vous ne comprenez pas que ce qui gêne dans cette affaire, c'est que faut-il pas qu'un juge soit toujours en antériorité?
Alors, le juge ne peut pas, par antériorité, décider que vous allez commettre un acte délictueux.
Non, et le préfet, il peut?
Le préfet peut considérer qu'une série de participations ou de commissions d'actes violents dans les manifestations ensuite entraîne le fait qu'il est proposé que vous ne soyez pas dans la manifestation et vous pouvez faire appel au juge pour que si le juge considère que les éléments...
Après, bien évidemment.
Non, mais ce qui pose... non. Vous pouvez faire appel au juge une fois que la décision est prononcée et avant le début de la manifestation. Ah, mais bon. Nous avons demandé que le délai entre le moment où le préfet prend sa décision et le moment où se tient la manifestation soit suffisamment long pour que l'exercice d'appel au juge soit possible. Ça, vous savez, je vous parle de travail parlementaire, mais si je veux juste prendre un tout petit peu de recul. Quand vous êtes un parlementaire, et surtout quand vous avez une responsabilité dans un groupe de majoritaire, moi, mon objectif, c'est de faire des majorités. On ne fait pas des majorités si on n'a pas de consensus. Et nous avons créé le consensus sur ce texte en travaillant de manière très détaillée, très précise, sur les objectifs politiques, j'y reviens, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Et personne ne conteste l'objectif politique. Personne ne conteste aujourd'hui les forces de l'ordre sont attaquées par des gens très différents. Personne ne conteste que des gens viennent dans les manifestations avec des armes par destination, des boules de pétanque.
On a compris, Amélie Brochin, tout ça. On a compris l'intention. Mais est-ce que vous allez quand même vous interroger sur ce qui a conduit 50 députés de votre groupe à s'abstenir? On sait pourquoi ils s'abstiennent. Pour une part d'entre eux, ils auraient volontiers voté contre. Certains l'avaient même dit. Mais il y a la discipline de parti qui fait qu'on n'ose pas aller jusqu'au bout de la démarche. Mais est-ce que vous allez quand même vous interroger sur le sens politique de ce vote d'abstention pour 50, ça n'est pas rien tout de même.
Voter contre, vous savez, on a un député qui avait voté contre le budget.
Oui.
Au fond, il ne vote pas tellement. Oui, il vote contre le texte, mais il vote aussi contre le travail, contre toutes les ajouts d'un groupe parlementaire dans un texte qui devient ensuite non seulement un texte du gouvernement, mais aussi un texte dont la majorité peut saisir. Bien sûr qu'on réfléchit. Vous savez, il y a des députés depuis des semaines qui disent on n'a pas assez de place au débat interne.
Oui.
Donc, ce soir, par exemple, nous avons, comme dans tous les quatre prochains mardis, 1h30 de débat interne sur les textes, sur les thèmes du grand débat national. Nous aurons des débats sur la bioéthique. Nous avons eu ce matin en réunion de groupe un débat tout à fait intense. Et donc, moi, en tant que vice-président de ce groupe, je suis garante du fait qu'il faut que nous ayons un débat interne riche, qu'il faut que nous ayons un débat avec le gouvernement qui soit riche, et que nous arrivions à chaque fois. À créer consensus et à faire majorité.
Vous avez même des ministres qui ont voté contre les textes, d'ailleurs. Hein. Olivier Dussopt, par exemple, avait voté contre le budget juste avant d'entrer au gouvernement.
Ça tombe bien parce qu'il n'était pas dans la majorité à ce moment-là.
Oui, bon, ça n'empêche pas qu'on peut se poser la question de la cohérence.
Oui, mais à l'époque, les responsables du groupe majoritaire n'avaient pas associé des votes d'Olivier Dussopt.
C'est une anecdote en passant.
Vous parliez des parlementaires. Dans le fond, vous faites quel bilan, vous, de la création de votre parti, La République En Marche? Pourquoi je vous dis ça? Parce que, dans le fond, ce qui a émergé quand même dans la crise des Gilets jaunes, l'un des aspects, c'était que le président de la République n'avait pas de relais et que les nouveaux députés, les impétrants dans la vie à l'Assemblée nationale, ne faisaient pas leur boulot de relais entre les Français qu'ils rencontraient sur le terrain et le président de la République.
Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Moi, je pense que tous mes collègues députés ont fait un travail très important, très de terrain, chacun avec des méthodes différentes, plus ou moins adaptées à notre territoire. Moi, je fais des réunions publiques tous les mois, on a tous des permanences qui sont extrêmement ouvertes, on rencontre énormément de monde, donc on ne peut pas dire que les députés aient rien fait. Néanmoins, le non-cumul des mandats...
Ils n'ont pas été un relais suffisant.
Le non-cumul des mandats a quand même créé, depuis 2017, finalement, une nouvelle façon d'exercer notre rôle de parlementaire. Nous ne sommes plus des élus locaux. Donc, nous ne sommes pas dans le quotidien des conseils exécutifs municipaux, comme c'était le cas avant. Ça veut dire que vous avez un réseau de relais quotidiens qui sont un peu différents. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Maintenant, vous voyez, on fait un travail d'évaluation et de contrôle des lois, de mise en œuvre des lois, beaucoup plus important que ce qui se faisait avant. J'étais à l'Assemblée, donc, juste après le vote des casseurs. On initiait une semaine de contrôle du gouvernement. J'ai interrogé une ministre assez longuement sur le non-recours aux aides sociales. Pourquoi, dans notre pays, il y a des millions de gens qui, quand, vu de l'hémicycle, vu de l'Assemblée, ils ont droit à plein de choses, et puis sur le terrain, et ça, c'est nous qui le constatons, quand on visite les CAF, quand on visite les centres sociaux.
Oui, donc,
ce travail-là, c'est un travail nouveau. C'est un travail où on fait un rôle d'ascenseur beaucoup plus fort entre ce qu'on voit sur notre circonscription et la loi. Et ça, là, je pense que, indéniablement, tous les députés, y compris de l'opposition, pourront noter qu'on est beaucoup plus impliqués sur ces travaux et qu'on cherche à aller beaucoup plus loin. Je pense que le non-cumul des mandats...
Alors, c'était Aron sur le non-cumul, avant que ça passe, et maintenant, on dit...
Non.
Il faudrait qu'il n'y ait plus de non-cumul.
Ma position, c'est pas de vous dire qu'il faut qu'on y revienne. Ma position, ça veut dire que les rôles des uns et des autres, à savoir des maires, d'un parti politique, des députés, des parlementaires, évoluent, puisqu'on a changé, en fait, l'exercice de ce mandat. Un député, aujourd'hui, au fond, je pense que notre principale mission, ça doit être de s'assurer que ce que nous votons dans l'hémicycle devient concret pour les Français, qu'ils le comprennent. Et donc, il y a plein de relais. Il y a les médias, il y a bien sûr la présence sur le terrain, mais surtout que ça s'applique. Tu sais, les résultats qui vont faire qu'à la fin, on est réélu ou pas, c'est est-ce que les Français, quand on leur dira « on a fait ça,
ouais.
on a augmenté la prime d'activité, on a permis que les écoles soient dédoublées pour les classes de CP », est-ce que dans la réalité, ça se passe ? Ouais. Parce que ce qui détruit la parole politique, c'est le décalage immense entre les grands discours qu'ils entendent à ces micros ou aux tribunes de l'Assemblée, et puis leur réalité qui, pendant des années, ne changeait pas. Et nous, il faut qu'on soit garant de ça, de s'assurer que les lois s'appliquent. Et donc, c'est un rôle un peu différent de l'élu qui avait plusieurs mandats, et que peut-être que les Français voyaient plus au quotidien, parce que c'était son rôle finalement de maire qui l'amenait ouais. plus au contact, et nous, on est un peu plus à l'Assemblée, et on fait un peu plus de contrôle. Et je pense que c'est un nouvel équilibre aussi institutionnel.
On évoque les niches fiscales, Roselyne,
oui,
peut-être.
Oui, tout à fait.
Darmanin,
allez-y,
mais
allez-y.
Je vous en prie.
Oh, cher ami, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, donc qui ne semble pas vouloir rétablir l'ISF, puisque c'est une des demandes des Gilets jaunes, mais il propose de plafonner les niches fiscales. Est-ce qu'une fois de plus, ce n'est pas une partie des très riches qui va passer à travers des mailles du filet? Et comme toujours, c'est un peu la même part de la classe moyenne qui supporte le poids de l'effort en matière de fiscalité.
Je voudrais qu'on revienne sur ce sujet parce que c'est un sujet sur lequel j'ai énormément travaillé avec le rapporteur général du budget, Joël Giraud. On a repris, dans un petit travail très précis, les niches fiscales non évaluées, les petites niches fiscales, celles qui coûtent entre guillemets moins de 10 millions d'euros à l'État, celles qui ont 13, 15, 20 bénéficiaires. Les bénéficiaires sont parfois des gens de la classe moyenne, sont parfois des gens qui ont des revenus importants. Le travail de fond qu'il y a à faire, c'est la complexité de notre système fiscal. Et la justice fiscale ou l'injustice fiscale qui est décriée par les Gilets jaunes, elle vient aussi de cette complexité. Quand vous avez l'impression qu'il y a un grand maquis et que certains savent comment ça marche et qu'ils peuvent réduire leurs impôts et que vous, contribuables moyens, citoyens finalement éduqués mais pas forcément très informés, vous ne pouvez pas avoir accès à ces réductions, il se nourrit un sentiment d'injustice. Pour moi, l'essentiel, c'est l'évaluation. Soit les dispositifs fonctionnent, ils apportent des emplois, ils sont utiles, et on les conserve, soit les dispositifs s'empilent, sont utilisés que par très peu de personnes, alors il faut les regarder de près. Ce que je tiens à dire, c'est qu'aujourd'hui, la justice fiscale, c'est un des points essentiels du grand débat national, il y a plein de façons de le résoudre.
Il y a des exigences en effet très fortes de ce côté-là, qui se font jour dans les débats. Moi, je voudrais vous poser une question à ce sujet-là, parce que bon, les niches fiscales, sur les réductions et crédits d'impôt, elles coûtent à peu près 14 milliards d'euros à l'État, la moitié, selon le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, la moitié profite aux 9% des personnes les plus riches. Or, en France, avec un salaire de 4 000 euros par mois, on est dans les 8% des personnes les plus riches. On pourrait donc en conclure, logiquement, que Gérald Darmanin pense, comme François Hollande en 2007, exactement, qu'on est riche à partir de 4 000 euros par mois.
Alors, c'était juste pour donner une idée de la concentration de l'impôt. Ouais. Moi, je ne vais pas me lancer dans un débat de est-ce qu'on est riche ou pas.
Parce que vous
riche.
Comprenez bien que ça dépend les exigences qui apparaissent aujourd'hui, ce n'est pas taxer ceux qui gagnent 4 000. Peut-être aussi, mais c'est ceux qui gagnent beaucoup plus de 4 000 qui
moi,
sont collimateurs.
Moi, je vous le dis, mon approche, ce n'est pas de savoir s'il y a un seuil, un niveau, à quel moment on est riche. Mon exigence, c'est nous ne devons pas dépenser 1 euro d'argent public ou nous priver d'un euro d'argent public d'impôt si ça ne fonctionne pas, si l'efficacité n'est pas là. Tout comme je me suis donc exprimé aujourd'hui dans l'hémicycle sur le non-recours aux aides
sociales.
Comment
vous la mesurez l'efficacité d'une aide, par exemple?
Mais d'une aide, combien ça crée d'emplois? Est-ce que c'est ciblé sur les personnes qui le demandent? Dans les niches fiscales, il y a des choses sur le cinéma. Il y a des choses sur donc, l'emploi à domicile. Il y a des choses sur le don aux associations. Ça, c'est les grosses qu'on connaît. Mais il y en a plein d'autres, des toutes petites. Il y a des choses sur les bois, les forêts, la détention de terrain. Vous avez des choses sur la détention d'objets culturels. Moi, j'ai pas d'avis, vous voyez, ligne à ligne, là, ce soir, à vous donner. Mais ce que je sais, c'est que mon approche, et je pense beaucoup d'ailleurs de députés, c'est pas de savoir s'il faut fixer un seuil, c'est-à-dire au-dessus, on coupe.
Non, mais
avant,
je disais,
on
c'est
garde.
Toujours les mêmes qui supportent l'effort.
Oui, mais regardez, les niches fiscales, c'est là où c'est intéressant.
Et les riches, les très riches, passent une fois de plus.
Moi, mon sujet, c'est pas ça.
Non.
C'est si on investit de l'argent public.
C'est bien la justice fiscale,
mais
votre sujet, quand même aussi.
C'est l'efficacité avant tout. Si on demande aux Français de payer un impôt et qu'on investit dans une politique sociale ou fiscale, soit ça porte les fruits qu'on s'est fixés et on le conserve, soit ça ne porte pas les fruits qui ont été fixés et on le supprime. Le grand sujet, c'est l'empilement de tous ces dispositifs, c'est la complexité que ça génère, la stratification qui fait que personne ne s'y retrouve. Dans les aides sociales, vous avez 23 aides familiales. dire qu'on veut réformer et simplifier les aides familiales, ça ne veut pas dire qu'on va supprimer les aides familiales.
Les aides aux entreprises aussi, qui sont...
Dans les 14 milliards que vous évoquez, oui. Effectivement.
Ouais, mais si on compte les aides aux entreprises, c'est beaucoup plus de 14 milliards.
On est à peu près à 70 ou 80 milliards. Ouais. Donc on est sur des aides à chaque fois. On a des grands paradoxes. Non mais juste pour que vos auditeurs comprennent. On est le pays où le taux d'imposition sur les sociétés est le plus élevé. Aujourd'hui, 31%, 33%, qui va arriver à 25%. Mais on est aussi le pays qui a presque les plus faibles recettes d'impôts sur les sociétés. Pourquoi ? Parce qu'on met un très grand taux, comme il est trop élevé, on fait plein de trous dedans, des niches. Et donc, c'est pas efficace. On se donne tous l'impression qu'on taxe beaucoup, et en fait, les recettes sont petites. Moi, je préfère qu'on supprime des niches, qu'on baisse les taux d'imposition, et que ça fonctionne. Et donc, c'est un travail d'évaluation, c'est un travail qui doit pas avoir d'idéologie, c'est un travail qui doit, ligne à ligne, se dire est-ce que ça fonctionne. Oui. C'est le travail que nous avons commencé à mener avec le rapporteur général du budget. On a supprimé 20 niches fiscales, il y en a 450. Donc,
il y a de la marge.
Et on a choisi des choses, parfois, qui avaient été créées il y a 25 ans, qui étaient utiles il y a 25 ans et qui ne sont plus aujourd'hui. C'est ce travail-là qu'il faut qu'on fasse. Et c'est un travail, vous voyez, précis. C'est pas un travail de discours, de posture. C'est un travail d'évaluation. Et c'est très important qu'on puisse mener ce travail.
Une question, il reste peu de temps, mais sur le référendum, puisqu'il a, l'idée a fuité qu'Emmanuel Macron voudrait faire un référendum à questions multiples, en même temps que les européennes, dans votre parti, certains trouvent ça, dommageable, enfin que ce soit pas une super idée, étant donné que ça va se confronter avec le scrutin des européennes. Et pour Emmanuel Macron, il avait fait des européennes justement un scrutin important entre populistes, nationalistes,
je vous confirme,
entre
c'est toujours
nationalistes
très
et progressistes. J'entends bien, mais est-ce que justement ça ne risque pas de...
Alors, parce que je vais vous parler de
cannibaliser le...
C'est que, un, la décision n'est pas prise. Ouais. Deuxièmement, l'essentiel se passe en ce moment. J'étais hier avec le président à Évry-Courcouronnes pour ce grand débat avec les acteurs qui sont dans les quartiers populaires, dans les banlieues des métropoles. Là, il se passe des choses intéressantes. Ça se passe dans toutes les réunions publiques qu'on organise. Le grand débat, il a lieu maintenant. Que ensuite, dans la restitution, il y a un certain nombre de points institutionnels, peut-être constitutionnels, peut-être d'organisation, de grands principes qu'on voudrait poser aux Français. Peut-être que le référendum est une bonne idée. Quand ? Je ne sais pas quand est le bon moment. Peut-être c'est le jour des élections européennes.
Mais vous en comprends. Pensez quoi ?
Moi, personnellement, j'aime qu'on fasse les choses dans le bon ordre.
Oui.
Donc déjà, il faut
mais
que ce débat...
limiter le référendum aux questions institutionnelles, vous ne pensez pas que ça donnerait aux gens, aux gilets jaunes, l'impression qu'on écarte les sujets qui les préoccupent vraiment du référendum ?
Vous savez, le mouvement des gilets jaunes, il a eu plein de priorités. Il a eu une priorité d'abord sur la fiscalité écologique, puis après une priorité fiscale, puis après il y avait le référendum d'initiative citoyenne, et puis aujourd'hui on vous parle de l'état de droit et de la représentativité. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que disent les Français ? Qu'est-ce que dit le grand débat national ? Quelles sont les priorités qui ressortent ? Quels sont les bons outils pour faire porter ces priorités ? Il peut se passer des lois au Parlement, la réforme de la Constitution, le référendum. À ce stade,
on
met les choses dans le mauvais ordre.
Merci Amélie de Montchalin, on a terminé.